Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Maman, c'est toi la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie.
Oh, mais c'est la chanson que ma petite fille m'a chantée pour la fête des mères, c'est de Luis Mariano, mais c'est mignon comme tout.
Elle est moderne.
Oui, sa maîtresse était moderne, effectivement, mais c'était très beau. De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre, en compagnie ce matin, en studio de deux psychiatres, le docteur Lucie Joly et le docteur Hugo Botteman. Nous sommes également rejoints en ligne par Anna Roy. Bonjour Anna.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes sage-femme et donc vous venez de lancer la saison 2 de Sage Meuf, un podcast natif Europe 1 Studio. Et donc chaque lundi, il y a un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute. Anna, on parlait juste avant de ce qui se passe dans le cerveau des mamans, avec les deux médecins en plateau avec nous, dans les mamans, les femmes enceintes en l'occurrence, mais dans leur tête, on va dire. On va revenir vraiment plus du côté peut-être psychologique. Quand on apprend la nouvelle, alors certaines vont être euphoriques, mais il est possible que ce ne soit pas du tout le cas, même si l'enfant était désiré. C'est fréquent. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, dans ces cas-là, ces futures mamans ?
Oui, c'est fréquent et c'est pas grave du tout. C'est bien normal, elles sont à l'aune d'un grand bouleversement à la fois corporel, psychique et dans leur vie tous les jours. Et c'est bien normal qu'il y en ait qui soient très contentes, puis d'autres très effrayées et d'autres très... À chacune sa réaction. Tant qu'elles supportent la réaction, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est une réaction qui les empêche de se nourrir, de dormir, d'avoir une vie sociale ou de travailler, alors là, ça vaut vraiment le coup de venir voir une sage-femme, un médecin, un professionnel de la santé mentale pour essayer d'éclaircir et de comprendre ce qui se joue là.
Bonjour Anna, c'est Julia.
Bonjour Julia.
Alors, une question. Quand on est enceinte, c'est vrai qu'on a tout de suite envie de le dire, de l'annoncer à tout le monde. Est-ce qu'il faut vraiment attendre les 3 mois avant de l'annoncer ? Bon, j'imagine qu'il faut attendre pour être sûr qu'il n'y ait pas de pépins, mais quand même, on ne peut pas se réjouir avant.
Non, mais oui, on peut évidemment l'annoncer à n'importe quel moment. C'est vraiment les femmes qui décident. Si elles ont envie de l'annoncer dès que leur test de grossesse est positif, eh ben c'est possible. Surtout qu'on le sait, les mots du premier trimestre sont parfois assez prégnants. Et en plus, si on a un arrêt naturel de grossesse, c'est bien d'être entouré. Donc moi, je suis pour que les femmes fassent exactement ce qu'elles sentent. En tout cas, n'hésitez pas à l'annoncer dès que vous en avez envie.
Bon, très bien. Alors revenons au cerveau des mamans avec vous, Lucie, qui est chamboulée pendant la grossesse. Vous écrivez dans votre livre que tous ces changements dans le cerveau, ils vont augmenter la sensibilité de la mère. Et c'est pour ça qu'une femme enceinte peut peut-être paraître un peu plus anxieuse, un peu plus stressée. Expliquez-nous.
Eh bien, en effet, les hormones de la grossesse modifient directement l'activité cérébrale. Et parfois de manière assez drastique. Et donc, ça provoque une grande vulnérabilité, finalement, aux troubles anxieux et dépressifs.
Mais ça sert à quelque chose ? Pourquoi on a ça qui nous arrive ? C'est pour, je ne sais pas, être plus alerte par rapport à notre bébé ? Ça sert à quelque chose ?
Exactement, c'est pour préparer l'arrivée au bébé et puis de pouvoir être plus à l'aise pour lui répondre à ses besoins.
Mais ce niveau de stress ou d'anxiété qui augmente au moment où on est enceinte, est-ce qu'il va quand même disparaître après l'accouchement ? Ou est-ce que ces changements là, cérébraux de grossesse, ils vont durer toute la vie ? Vous parliez de deux ans tout à l'heure,
c'est long,
c'est sur le long terme quand même.
Non mais l'anxiété finalement, enfin pour certaines, l'accouchement va être libérateur. Pour d'autres, ça ne sera pas le cas. Et si l'anxiété, elle persiste après l'accouchement, à ce moment-là, il faudra quand même être vigilant à l'apparition d'une dépression du postpartum, qui a une prévalence assez élevée.
C'est des patientes qui ont peur de l'accouchement, typiquement des patientes que tu suis beaucoup, qui ont des symptômes de tocophobie, donc qui est cette peur de l'accouchement. C'est une des spécialités aussi de Lucie.
C'est vrai ? Il y a des gens qui ne veulent pas aller accoucher ?
Oui, et qui sont même prêtes à faire des interruptions volontaires de grossesse.
À ce point-là,
d'accoucher.
Alors justement, Anna Roy, est-ce que vous avez des astuces, des conseils, des trucs qui fonctionnent pour réduire le stress des futures mamans ou de jeunes mamans très, très tendues ?
Anna ?
Elle est repartie.
Anna Roy, donc...
je voudrais légitimer... Oui, vous m'entendez ?
Oui, c'est bon.
Ah non, je ne suis pas partie, je suis là.
Okay. Ah bah tant mieux.
On vous écoute.
Pour l'accouchement, moi, je voudrais légitimer cette crainte parce qu'en fait, c'est un événement. On ne sait pas quand est-ce qu'il a lieu, avec qui, comment, dans quelles conditions. Donc, en avoir peur, c'est normal. Toutefois, effectivement, c'est toujours l'alarme, c'est ça m'empêche de mener à bien mes activités de la vie quotidienne. Et dans ce cas-là, il faut aller voir de toute façon une sage-femme. Il y a des cours de préparation à la naissance et à la parentalité qui sont super, qui sont pris en charge par l'assurance maladie. C'est déjà un premier step. Et puis, si on voit que ça ne suffit pas, on ira voir des professionnels de la santé mentale. La sage-femme saura évidemment vous indiquer ça.
Docteur Botman, il y a un truc qui m'a vachement intéressé dans votre livre, Durant 9 mois, bah, évidemment, on sent notre bébé bouger. Mais vous dites que parfois, c'est un peu dans la tête, en fait. Pourtant, on le sent bien bouger, ce bébé. Mais vous dites que ces perceptions de grossesse et ces mouvements fœtaux, bah, en fait, il se passe aussi quelque chose au niveau cérébral.
Ça, c'est un phénomène assez fascinant. C'est finalement la perception qu'on a des mouvements du bébé. Eh bien, c'est une perception qui est très subjective. Et ça, ça nous fait appel, en fait, à tout ce qu'on sait sur la perception au niveau cérébral. C'est qu'en fait, notre perception du monde, de ce qui nous entoure, de notre environnement, c'est pas la réalité vraiment de ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que notre vision, notre audition, notre odorat, eh bien, c'est une confrontation entre ce que notre cerveau prédit de ce qui se passe dans le monde et de la réalité des entrées sensorielles qu'on a. Et c'est pareil pendant la grossesse. C'est-à-dire que notre cerveau, enfin, le cerveau des femmes, il va prédire quels sont les types de mouvements, quels sont les changements qui ont lieu en ce moment dans le corps. Il va les comparer à ces informations réelles, mais parfois, eh ben, il y a un petit bug au niveau de cette comparaison entre les prédictions et les entrées sensorielles.
Et ce qui est fou, c'est que ça peut durer surtout une fois que le bébé est sorti du ventre. Franchement, moi, j'en ai fait partie
deux, trois mois après.
Hein, il était né, ce bébé. Je le sentais encore bouger dans mon ventre. Comment on explique ça? J'étais pas folle.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome du bébé fantôme. C'est quelque chose dont on parle très très peu encore. C'est assez peu connu parce qu'en fait, les femmes pendant très très longtemps n'en parlaient pas. C'est quelque chose qui est assez parfois. On craint d'en parler. On se dit est-ce que je suis pas folle de sentir ces mouvements? Je sens des mouvements du bébé. Et finalement, par exemple, les femmes en parlent assez peu à leur gynécologue ou à leur sage-femme.
C'est vrai que j'en ai parlé à personne à l'époque, j'avais un peu honte.
On estime qu'il y a environ 40% des femmes qui ressentent ces mouvements fœtaux fantômes après l'accouchement.
Et dites-moi, Lucie, tout à l'heure, Anna a parlé de tous les maux de la grossesse, les désagréments, notamment au premier trimestre, les nausées, les vomissements, les douleurs. Est-ce que c'est un défaut au niveau du cerveau des femmes enceintes qui fait qu'elles subissent ça?
Les nausées, les vomissements, c'est tout à fait normal chez la femme enceinte. On estime qu'il y a 70% des femmes qui ont des nausées à partir de la 6e semaine de grossesse. Par contre, en ce qui concerne ce qu'on appelle l'hyperémèse gravidique ou les vomissements gravidiques, qui a été rendu célèbre par Kate Middleton parce qu'elle l'a subi pendant ses grossesses, là ça désigne vraiment des vomissements qui sont persistants, très importants, incoercibles. Nous avons à ce jour peu de données scientifiques et c'est un vrai défi médical. On suspecte une origine multifactorielle avec un terrain génétique, les hormones de la grossesse, des facteurs psychosociaux, mais c'est encore très peu connu.
On n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure de ce stress qui est amplifié, hein, notamment à cause de variations cérébrales chez les femmes enceintes. Ces méfaits du stress, nous on en parle souvent dans l'émission, sur même notre santé globale. Est-ce qu'on sait, d'un point de vue scientifique, si elles ont des conséquences sur le bon déroulé de la grossesse, Lucie?
Alors, c'est plus connu, hein. Ça, on sait que les femmes angoissées, stressées pendant la grossesse, elles vont augmenter leur taux de cortisol et le cortisol, il va avoir des effets délétères sur les paramètres obstétricaux et donc ça va entraîner plus d'accouchements prématurés, voilà, des retards de croissance. Voilà, il faut être vraiment vigilant chez ces femmes qui sont angoissées et pas le banaliser.
Anna, vous avez entendu ce que vient de dire Lucie, j'imagine que vous conseillez aux femmes qui subissent du stress dans leur boulot d'arrêter, non? Ou de trouver des aménagements?
Ah oui, moi je dis toujours, on n'est pas enceinte 50 fois dans sa vie, on n'accouche pas 50 fois dans sa vie, et donc des situations de stress intense au travail ou dans le cercle familial, etc., doivent donner lieu, effectivement, en tout cas dans le travail, à un arrêt de travail, bien sûr.
Et par votre expérience, est-ce que des mamans trop stressées, ça fait des bébés qui ont des soucis, on va dire, en tout cas, ou des bébés qui pleurent beaucoup, des bébés qui sont tendus à la naissance?
Non, moi, je voudrais pas rentrer là-dedans. Je pense qu'une maman stressée, ça dépend de la façon dont elle réagit. Mais si elle est très honnête avec son fœtus, puis après avec son bébé, en leur disant, tu vois, je suis stressée parce que j'ai perdu mon boulot, parce que je m'entends mal avec ton père, ou je ne sais pas quoi, tant qu'elle pose des mots sur ce qui favorise le stress, alors moi ça me va, et souvent non, c'est pas des bébés qui pleurent plus. Mais par contre, il faut qu'il y ait vraiment un espace de dialogue entre les parents et le bébé, ça c'est vraiment important.
Eh bien merci beaucoup, c'est très clair. On sera de retour dans quelques minutes. Que se passe-t-il dans la tête, dans le cerveau des mamans? Et on va voir que les bouleversements cérébraux continuent même une fois que le bébé est là. Comment chimiquement se tisse l'amour entre la mère et son bébé? Pour en savoir plus, restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours au cœur du cerveau, dans la tête des mamans. On en parle avec le docteur Lucie Joly et le docteur Hugo Botman, tous les deux psychiatres et co-auteurs du livre « Dans le cerveau des mamans » paru aux éditions du Rocher. En ligne avec nous également Anna Roy, sage-femme. Alors, docteur Lucie Joly, une question que l'on pose beaucoup aux femmes enceintes, c'est alors biberon ou allaitement? Et d'après les études scientifiques, l'allaitement aurait des effets psychologiques sur la mère. mère et l'enfant, mais lesquels? Ah, vous préférez
Hugo. Je vais laisser Hugo.
Hugo, on vous écoute.
Bah, c'est vrai que l'allaitement, quand une mère allaite, eh bien, il y a énormément de modifications cérébrales aussi qui ont lieu. Il y a des modifications des neurotransmetteurs, de l'ocytocine, de la dopamine. Donc, c'est des choses qui peuvent avoir des effets assez importants sur les émotions, sur l'humeur, sur les comportements. Donc, ce n'est pas anodin, l'allaitement. Le choix de l'allaitement, ça joue énormément sur finalement les rythmes biologiques aussi, parce que le sommeil est totalement perturbé. Et puis, il y a une influence sociale très importante. Il y a une pression sociale très importante encore pour l'allaitement. Mmh. Et donc, ce qui fait que ce choix de l'allaitement, il faut que ça soit un choix assez libre. Il faut laisser vraiment une ouverture très grande pour les femmes et pas trop mettre de pression même biologique. Parce qu'on a beaucoup ces messages pédiatriques de dire que finalement l'allaitement est vraiment très bénéfique pour le nourrisson, donc il y a une pression très importante, si je veux être une bonne mère il faut que j'allaite. Alors qu'en fait les études sont quand même plus mitigées, on sait qu'il y a des bénéfices de l'allaitement, mais des femmes qui n'allaitent pas et qui donnent le biberon, et ben, c'est des développements du bébé néonato qui sont tout à fait satisfaisants et qui sont tout à fait...
Bon, je suis très satisfaite de mon gros bébé de 15 ans hein, qui n'a pas été allaité.
Oui, mais on était dans l'informatif, il faut quand même savoir qu'il y a des modifications cérébrales effectivement quand on allaite son bébé au sein. Anna Roy, justement, je suis sûre que vous allez être d'accord, hein, l'allaitement c'est un choix libre de la femme, et bien sûr il y a des bienfaits, mais mieux vaut un biberon bien donné avec amour qu'un allaitement contraint, on est d'accord?
Oui, bien sûr, après il faut faire attention avec ce genre de phrase un peu toute faite, mais moi je dirais aux femmes, informez-vous au maximum, parce que souvent il y a des choix qui sont faits sans s'informer, et je trouve que ça vaut le coup de s'informer pour pas non plus qu'il y ait des regrets, parce qu'il y a des femmes qui disent non j'allaiterai pas, ou à l'inverse j'allaiterai, et qui après regrettent. Le tout c'est de s'informer, de s'éclairer, c'est un choix qui est vraiment important dans la vie d'une femme, et donc informez-vous, lisez plein de trucs, c'est passionnant, il y a plein de trucs à lire.
Très bien, on parle beaucoup du lien mère-enfant, comme si l'amour entre une mère et un enfant était automatique, mais qu'est-ce qui se passe du point de vue de la science, Hugo? Qu'est-ce qui crée ce lien d'attachement si fort, et pendant peut-être déjà la grossesse même, hein?
Alors c'est vrai que l'attachement à son bébé, c'est pas du tout automatique, c'est une construction progressive, alors qu'il se tisse pendant la grossesse et qui après se transforme, se modifie dans le postpartum. Il y a plein d'étapes de cet attachement, et ces étapes, elles sont pas forcément, il n'y a pas besoin forcément de les accompagner, il n'y a pas forcément besoin de faire quelque chose ou de se stresser ou d'y penser énormément. Il y a des choses très naturelles qui se mettent en place et qui parfois n'ont pas vraiment besoin de mots ou vraiment d'approche psychologique pour les accompagner. Par contre, chez certaines femmes, l'attachement peut être plus difficile. Il peut y avoir même une souffrance liée à une culpabilisation. Je me sens pas assez attaché à mon bébé, je me sens un peu différente des autres femmes par rapport à ce lien d'attachement. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'avoir un accompagnement pendant la grossesse et dans le postpartum.
Alors Hugo, on sait bien qu'on peut être tout aussi bien une mère adoptante très aimante. La question c'est, est-ce qu'il se passe les mêmes choses dans la tête d'une mère aimante, évidemment qui adopte, que d'une mère qui va avoir son enfant biologique et le porter?
Alors c'est très intéressant, c'est qu'en fait ce qu'on fait tous les jours, toutes les actions que vous faites ensemble tous les jours, et ben, finalement ça modifie votre cerveau. Donc quand vous vous occupez d'un bébé, quand vous êtes une mère adoptante et que vous vous occupez du bébé comme si vous aviez porté le bébé après pendant la grossesse, et bien finalement votre cerveau il se modifie dû à cette plasticité, et les mêmes zones cérébrales liées à la maternité s'activent, se renforcent, et puis font que vous avez des comportements et des émotions qui sont tout à fait semblables à celles d'une mère qui a vécu sa grossesse du prénatal au postpartum.
Donc il n'y a pas de différence?
Il y a des différences, ça on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de différence, mais en tout cas la plasticité du cerveau est telle que finalement ces différences elles s'estompent avec le temps.
Donc dans le cerveau de toutes les mamans, donc il se passe des choses. Anna, parfois à la naissance ou même dans les mois qui suivent, certaines mères ont du mal, on vient de le dire, à s'attacher à leur bébé. Il y a la fatigue, la déprime, les hormones. Qu'est-ce qui se passe et dans quelle situation il faut s'inquiéter? On a évoqué un peu la dépression du postpartum, on vous écoute.
Alors, il y a la dépression du postpartum, bien sûr. Il y a l'état de stress post-traumatique aussi. Il y a l'état d'hypervigilance. Enfin, il y a tout un tas de troubles comme ça qui peuvent arriver. Et ce qui est vraiment important de le dire, c'est que c'est pas grave, vous êtes pas folle. Et donc, vraiment, entourez-vous de professionnels de la santé bienveillants et non jugeants pour qu'ils puissent vraiment agir tout de suite. Ne laissez pas traîner. Dites-vous pas, oh non, mais ce que je ressens là, c'est pas légitime, je veux pas dire que c'est, etc. Non, non. Tout ce que vous dites est très intéressant et venez nous le dire pour qu'on puisse tout de suite prendre en charge ce qui vous tracasse et ce qui vous inquiète.
Déprimé alors que le bébé est là, c'est quelque chose qui s'explique au moins dans les premiers jours, Lucie, je crois. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même tendance à banaliser le baby blues. Est-ce que toutes les femmes vont le vivre réellement?
Alors, le baby blues, ça va toucher environ 60 à 80% des femmes qui ont accouché. C'est un état qui est transitoire et qui n'est pas considéré comme pathologique, qui est dû à des remaniements hormonaux.
Et c'est quoi? C'est combien de jours?
Alors, ça doit pas durer plus de 7 jours. Et si ça dure plus de 7 jours, à ce moment-là, on devrait être vigilant à l'apparition d'une dépression du postpartum.
D'accord.
Mais souvent, voilà, avec le soutien, et comme le disait Anna Roy, voilà, le soutien, l'écoute des professionnels de santé, ça passe. Et
Et ça passe tout seul, en fait.
Ça passe, voilà, avec le soutien. Il faut quand même être entouré.
Parce qu'on est d'accord, c'est une chute d'hormones ou pas ? Ou ça n'a rien à voir ?
Voilà, c'est des remaniements hormonaux qui font qu'il y a cette hypersensibilité, ces doutes sur ses compétences maternelles.
Donc un gros câlin, que le papa soit enveloppant avec la maman, et ça peut passer.
Voilà.
Bon, et si c'est plus de 7 jours, évidemment, comme l'a dit Anna, vous n'hésitez pas surtout à consulter. Anna, on a une question pour vous, au 3921, notre répondeur de Stéphanie, qui nous disait, donc, en ligne, je suis enceinte de 6 mois, elle dit qu'elle a tout le temps envie de dormir le soir, il m'arrive même de m'endormir à 19h alors que j'ai fait une sieste. Est-ce que c'est normal d'après vous ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Elle s'est transformée en marmotte ?
Oui, c'est parfaitement normal. C'est tout à fait normal. On l'a vu, les bouleversements et cérébraux mais et corporels sont intenses quand on est enceinte. On réinvente son corps et sa tête. Et donc oui, on est fatigué. Bien sûr, attention, là, je ne sais pas si elle travaille ou pas, mais si vous travaillez trop, il faut vous arrêter. Hein. Être fatigué suffit à demander un arrêt de travail quand on est enceinte pour éviter des complications. Donc, voilà, c'est tout à fait normal, oui.
Et Hugo, d'ailleurs, dans le cerveau, ça s'explique, les femmes enceintes qui piquent du nez ?
Le cerveau, c'est le chef d'orchestre du corps et de l'esprit. Et finalement, c'est lui qui dirige un peu l'allocation des ressources. Et pendant la grossesse, le cerveau dirige un peu différemment les ressources pour le développement du bébé. Et donc finalement, il y a plus de fatigue aussi, qui est une fatigue qui est réelle, hein, qui est due vraiment à ce développement progressif du bébé. Et parfois, il peut y avoir une hypersomnie comme ça, périnatale.
Les rythmes biologiques sont peut-être un peu perturbés aussi.
Exactement.
Le cerveau, l'horloge, elle est plus réglée comme il faut, non ?
Exactement.
J'imagine.
Tout ce qui est lié au rythme biologique, notamment la mélatonine, la dopamine et l'ocytocine, qui sont des choses qui vont influer sur nos rythmes biologiques, sont perturbés par la grossesse et par le postpartum. Et puis après, quand le bébé est là, bien sûr, c'est un perturbateur aussi majeur de nos rythmes biologiques pour le meilleur, bien sûr.
Hugo, tout à l'heure, on parlait de ces bouleversements de comportement chez les femmes enceintes, mais dans certains cas, ça peut même partir dans la folie avec des idées totalement délirantes. C'est dû à quoi, en fait ? Qu'est-ce qui se passe pour... On croit devenir folle, parfois.
Donc ça, c'est un syndrome assez rare, mais qui est très grave quand il arrive, ce qu'on appelle la psychose puerpérale. Donc c'est en fait, après l'accouchement, en général, dans les 10 à 15 jours après l'accouchement, l'apparition d'hallucinations, de délires, d'une labilité émotionnelle, et puis d'une insomnie très, très, très forte. Ou par exemple, la femme qui vient d'accoucher peut avoir l'impression que son bébé est toujours dans son ventre et que le bébé qui est dans le berceau n'est pas le sien. C'est quelque chose qui est assez classique.
C'est lié
beaucoup aux mouvements fœtaux d'ailleurs, parce que c'est les femmes qui peuvent ressentir encore des mouvements fœtaux dans le ventre.
Oui, j'ai eu que ça s'arrêtait là, fantôme. Moi. Mon bébé est dans le berceau,
si je sens des bébés dans mon ventre, c'est que le bébé qui est là, c'est pas le mien. On l'a transformé ou alors on l'a changé, etc. Cet état-là, il peut arriver chez des femmes qui n'ont pas d'antécédents. En général, quand il est bien pris en charge, qu'il est bien traité, il n'y a pas forcément de conséquences derrière, mais il faut aussitôt, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique.
Heureusement, c'est très très rare. Pour finir, Anna, l'épisode 2 de votre podcast Europe 1 Sage Meuf, qui est en ligne depuis ce lundi, il traite de comment justement ne pas transmettre mes émotions négatives à mon bébé. Alors on ne peut pas tout dire aujourd'hui, on ira écouter évidemment cet épisode, mais quel bon conseil rapidement vous donneriez si on doit en retenir un sur ce sujet-là ?
Racontez tout à votre bébé. Racontez tout, toutes vos émotions, et négatives et positives, racontez-lui tout. Ça intéresse beaucoup les bébés, puis ça leur empêche de penser que c'est de leur faute ou que c'est de leur faute.
Et même quand ils sont tout petits, même quand c'est des petits.
Même quand ils sont tout petits, les bébés sont hyper intelligents, contrairement à ce qu'on pense souvent. Ils comprennent tout un tas de choses, et donc il faut leur raconter. Ils adorent en plus qu'on leur parle, donc ça tombe plutôt bien. Parlez-leur.
Bon, très bien, ils ont un petit cerveau, mais qui fonctionne déjà, alors autant l'utiliser. Merci beaucoup Anna Roy, et je rappelle que la saison 2 de votre podcast Europe 1 Sage Meuf est lancée, avec un nouvel épisode chaque lundi sur toutes les plateformes. Et puis je rappelle aussi votre livre, Hugo et Lucie, Dans le cerveau des mamans, aux éditions du Rocher. Julien, on va changer de sujet.
Oui, dans très peu de temps dans ce studio, vont débarquer nos bienfaitrices du jour. On va commencer avec Maud Ravier. Elle a élaboré sa to-do list beauté pour une rentrée au top du top, vous l'entendrez. Et puis dans la chronique Lecture Jeunesse de Nathalie Loup Breton, on va vous proposer des livres qui expliquent aux enfants l'importance des tâches ménagères. Des livres pour peut-être les encourager, les motiver à participer un peu plus à la maison. Alors à tout de suite sur Europe 1.